BFM Business, BFM Crypto, les pros. Antoine Larigauderie.
Et oui, BFM Crypto termine la semaine, comme tous les vendredis, par les pros des cryptos. On va évidemment parler de la très 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 copieuse actualité sur le marché, sur la communauté des crypto-monnaies. Il y a eu énormément de mouvements, et surtout en fin de semaine, sur les cours des grandes cryptos. Un gros coup de mou autour du Bitcoin, notamment, qui a entraîné des allègements sur pas mal de cryptos. Tiens, d'ailleurs, la tendance, on va en parler avec l'analyste technique. Bah, aujourd'hui, c'est Gilles Santacreux, Boursicoté.com. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Alors on va commencer par le Bitcoin. Ouais, il y a eu quand même un gros coup de mou ces 2-3 derniers jours là.
Oui, le Bitcoin accuse a priori des sorties de capitaux sur les ETF et ça s'est traduit par une rupture d'une zone qu'il fallait préserver pour garder un billet plutôt haussier, la zone des 75 000 dollars pour un Bitcoin. Donc là, au moment où je vous parle, on se rapproche des 73 000, on a un objectif intermédiaire à 70 900. Donc c'est un assez mauvais signal puisque cette zone des 75 000, c'est celle qui avait été résistance depuis toute cette phase de temporisation que l'on avait depuis cette stabilisation que nous avions eue au début du mois de février. Donc on était en train de construire un petit mouvement de rebond, de retour à un mouvement aussi qui est là en train de s'invalider. Donc au mieux, pour l'instant, on revient dans une zone de neutralisation. Mais attention, si on venait à casser donc dans l'élan la zone des 66 000 dollars pour un Bitcoin, eh bien on aurait des signaux beaucoup plus négatifs qui pourraient confirmer eh bien une poursuite d'un mouvement baissier qui est donc la tendance moyen terme.
Petit coup d'œil sur l'Ether, bah on est passé sous les 2000 dollars dans le mouvement du Bitcoin. Comment ça se configure l'Ether là en ce moment ?
Alors sur Ethereum, la zone qu'il fallait surveiller, qui était un petit peu l'équivalent donc des 75 000 sur Bitcoin, c'était 2170 dollars. Cette zone, elle a été cassée maintenant il y a quelques jours, hein, c'était le 17 mai. Depuis, cette zone, elle s'est transformée en résistance. On revient aussi vers une zone intermédiaire des 1930 dollars. La zone a cassé pour valider une poursuite du mouvement moyen terme, donc qui reste un mouvement baissier. Sur Ethereum, on est quasiment sur la même configuration que sur Bitcoin. Eh ben, c'est la zone des 1740 dollars pour un Ether. Donc là, on est en train de descendre. On n'a pas trop de signaux qui pourraient nous laisser penser que ces cryptos peuvent rebondir. Donc pour l'instant, c'est un mouvement d'ensemble. Il n'y en a qu'une hein, qui sort un petit peu son épingle du jeu. Et globalement, là, pour Ethereum, eh bien, on est sur un mouvement baissier qui semble vouloir se poursuivre.
Cela dit, hors des grosses capitalisations en termes crypto, il y a du mouvement sur Stellar dont vous nous parlez.
Oui, tout à fait. Donc Stellar, qui a priori fait l'objet d'un mouvement spéculatif, qui est monté donc en quelques jours. Alors on évoluait entre 14 et 15 centimes. Hein. Donc on était par contre sur un mouvement sur des valeurs qui sont très très basses. On était ce que l'on appelle dans un squeeze, hein, c'est-à-dire on était dans une phase très peu volatile, avec donc un mouvement qui était horizontal. Et là, directement, on sort de cette zone de squeeze pour, on a quasiment pris 50% de valeur, hein, c'est-à-dire on évolue entre 14 et 15, on a fait un point haut au-delà des 22 centimes. Là, ça a l'air de se stabiliser. On avait certainement aussi, on a été aidé sur ce mouvement par des positions vendeuses qui ont dû se déboucler. Et donc, clairement, c'est à suivre, hein, parce que là, on est juste sur la première impulsion. Alors, est-ce que ce sera durable ou pas ? On parle de spéculation qui pourrait être confirmée dans le courant de l'année 2027. Si c'était confirmé, on pourrait même avoir d'autres altcoins qui pourraient être tirés, je dirais, par ce mouvement spéculatif. Donc, pour l'instant, Stellar a fait un peu cavalier seul. C'est une crypto à surveiller. Et je dirais que la zone à ne pas recasser à la baisse pour ne pas commencer à invalider ce mouvement, c'est 18,5 centimes. Voilà, à part ça, je dirais que c'est assez morose sur le secteur actuellement.
Oui, c'est clair. Depuis 2-3 jours, il y a effectivement une certaine forme de négativité de la part des investisseurs. Merci Gilles Santacreux, Boursicoté.com. Vous retrouvez à la fin de BFM Bourse, hein, au moment de la clôture, pour l'analyse technique du CAC 40 et des valeurs du jour. Pour l'instant, on s'installe tranquillement pour parler crypto, parce que oui, il n'y a pas que les cours, il y a aussi les fondamentaux de l'industrie crypto, que soit le Bitcoin, que soit la custodie, on va parler régulation également, on va même parler de polymarket, figurez-vous, sujet très intéressant du côté des cryptos et de la bourse. Les pros des cryptos, c'est parti.
BFM Business, BFM Crypto, les pros.
Louis Laszlo de Meria, bonjour.
Bonjour.
Et Alexandre Shevchenko de Bitstack.
Bonjour.
Merci d'être là. On va donc parler Bitcoin. Hein. Oui, bon, la baisse des cours, d'accord. 73 136 dollars en ce moment. Mais au-delà de ça, il y a quand même des news, il y a quand même du fondamental et il faut en parler. Qu'est-ce qui domine l'actualité crypto cette semaine pour Bitcoin?
Bah, alors, effectivement, il faut dézoomer parce que je pense que ce qui a notamment généré la baisse du cours ces derniers jours, on l'a mentionné, alors il y a des éléments techniques. Je pense qu'il y a effectivement les sorties autour des ETF qui maintenant cumulent plusieurs milliards de sorties. On a eu aussi 1 milliard de liquidations qui ont été faites ces derniers jours en raison notamment de l'environnement macro, puisque en début de semaine, on était censé s'approcher à quelques heures d'un nouveau cessez-le-feu avec un accord de paix en Iran. Et puis, en fait, 3 jours après, on reprend les frappes.
En fait, non.
Et donc, forcément, il y avait des traders qui avaient pris position pour, par exemple, un long et qui se font complètement liquider. Donc, ça a généré ce genre de mouvement très court terme. Et d'ailleurs, ça a généré certains commentaires de gens qui sont venus pour dire, regardez, maintenant, c'est corrélé au Nasdaq, c'est bien la preuve que, etc., etc.
Mais là aussi, en fait, non.
Alors, en fait, non. En fait, oui et non. Voilà. Oui, à court terme, c'est toujours le sujet. C'est que ce qui est intéressant avec Bitcoin, c'est que quand on dézoome, et je vais me cacher à nouveau derrière nos amis de BlackRock, mais quand on dézoome, on n'arrive pas à lui trouver une corrélation long terme avec quoi que ce soit. Exemple, il y a un an, en avril 2025, le Bitcoin est corrélé à l'or autour de 0,7. C'est énorme. Et à l'inverse, avec le Nasdaq, il n'est quasiment pas corrélé. Aujourd'hui, la corrélation, si on regarde 30 jours, c'est 0,9 avec le Nasdaq. Avec l'or, elle est quasiment négative. Donc, ce qui est intéressant, c'est pas de voir est-ce que sur ces 3 derniers jours, ça s'est comporté comme le Nasdaq, mais c'est évidemment de regarder le comportement dans un portefeuille global. Et là, on voit que si on dézoome, on voit un actif qui est plutôt décorrélé. Donc moi, je m'inquiète pas trop, évidemment, sur les fondamentaux qui n'ont pas changé. C'est pas parce qu'on a repris les frappes en Iran. Et je terminerai toujours par ce que disent les analyses de BlackRock là-dessus. C'est que ce qui va driver au long terme les fondamentaux de Bitcoin, c'est en fait l'inverse de ce qui drive en règle générale les actifs risqués. C'est-à-dire la position sur la dette américaine, l'inflation, les tensions macroéconomiques, les tensions géopolitiques ont plutôt tendance à faire refluer les actifs risqués. Pour Bitcoin, ils ont plutôt tendance à le nourrir.
Oui, Aslo, un commentaire.
Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que lors de l'arrivée des ETF sur Bitcoin, on s'est dit c'est terminé, les cycles des 4 ans sur Bitcoin, c'est terminé, on ne respecte plus de théologie classique. Si on dézoome un peu, au final, on n'a pas tant que ça éloigné de la logique des cycles des 4 ans avec les explosions liées plus ou moins à une fenêtre temporelle suite au halving. Et si on regarde bien ce cycle des 4 ans aujourd'hui, on pourrait estimer qu'on est sur un bottom Bitcoin, ou qu'on s'en approche en tout cas, à quelques semaines, mois près. Donc ça va être intéressant de voir comment le marché se comporte et si on vient vraiment recoller à ce cycle des 4 ans, puisqu'aujourd'hui, si on regarde vraiment avec pendant l'ATH Bitcoin d'octobre 2025 comme étant l'ATH ultime sur ce cycle, on devrait arriver à peu près à cette période de l'année, entre maintenant et juin, sur le bottom de cycle, et donc recommencer à regrappiller progressivement des zones et consolider sur des zones pour repartir sur un cycle haussier. Donc c'est vraiment intéressant de voir comment on va se comporter le prix du Bitcoin et voir justement s'il est bien décorrélé des autres actifs et bien corrélé à son cycle historique de 4 ans et continuer à respecter cette logique des suites, des cycles qu'on pensait cassés et disparus depuis quelques mois.
Et les suites, non, c'est, le lapsus est bon parce que ça a aussi des implications mathématiques et il y a des choses qui se vérifient. On va parler d'Hyperliquid maintenant. Alors il faut un petit peu m'expliquer ce que c'est. C'est une bourse, c'est une place d'échange, Hyperliquid. Mais ça veut aller plus loin. Qu'est-ce qu'ils veulent faire, ces gens-là?
Donc Hyperliquid, ce qu'il faut voir, c'est une bourse d'échange décentralisée, contrairement à tous les exchanges qu'on peut connaître, Binance, Coinbase, même en France, Paynium, qui est notre seul exchange français. Donc Hyperliquid, c'est un projet qui a maintenant plus d'un an, j'hésite entre un an et 2 ans, tellement il est installé dans le paysage, qui brasse des volumes colossaux, à tel point que le président de l'ICE, qui est la maison mère du Nasdaq, indique que Hyperliquid pourrait dépasser certains marchés, comme le Nasdaq, sur certaines classes d'actifs, dans les prochains mois, voire dès aujourd'hui sur un certain nombre de classes d'actifs.
Pour avoir une idée des volumes, c'est quoi?
Je sais plus exactement. On parle de plusieurs milliards de volumes par jour. C'est vraiment colossal, Hyperliquid.
D'accord. Okay.
Et donc aujourd'hui, Hyperliquid propose différents capacités de trading, le trading de futures, donc de produits dérivés. Mmh. C'était le premier produit proposé sur Hyperliquid, le trading de spot, donc de trading de tokens, avec plus ou moins de levier, et a lancé donc cette semaine un prediction market.
Non.
Un prediction market. Frontal directement de Polymarket.
Ouais.
Avec des différences, c'est qu'aujourd'hui Polymarket a dans les désavantages de Polymarket, c'est qu'il y a une certaine centralisation de l'arbitrage des marchés. Aujourd'hui, sur Polymarket, vous pourriez parier si est-ce que Jésus revient cette année, Donald Trump va dire plusieurs fois le mot, je sais pas, Iran dans un discours. Et aujourd'hui, bah, moi, si je vote pour oui et que Alexandre vote pour non, et que à la fin de la résolution du marché, on n'est pas d'accord. Ça s'appuie, tout ça, la résolution du marché, sur un oracle externe. Et donc, cet oracle externe, il y a un token qui est derrière, et c'est les détenteurs du token qui arbitrent en cas de litige sur la résolution du token. Donc, aujourd'hui, il y a une problématique sur Polymarket, dans la construction technique de Polymarket, c'est que, à la fin, s'il y a un litige sur un marché, c'est les plus gros holders du token de l'oracle qui peuvent décider de la résolution du marché. Hyperliquid, ils ont pris un pan complètement différent. Hyperliquid s'appuie sur un réseau de validateurs pour décentraliser l'order book et soutenir le réseau qui est sous Hyperliquid. Et donc délègue aux validateurs cette capacité à sourcer la data qui soutient les marchés et à voter pour la résolution des marchés en cas de litige et de gérer ce mécanisme-là. Donc c'est très intéressant puisque les validateurs concentrent un pouvoir de délégation qui viennent des porteurs du token Hyperliquid. Les porteurs de token Hyperliquid ont un prix qui est détenu puisqu'à chaque fois qu'Hyperliquid génère des frais de transaction, ils vont acheter des tokens au marché et les tenir. Donc tout ce mécanisme-là repose, plus vous utilisez la plateforme, plus elle est décentralisée, plus elle est décentralisée, plus normalement l'arbitrage des marchés se veut neutre et équitable. Donc très intéressant de voir comment Hyperliquid grossit. Et aujourd'hui, Hyperliquid est une super bourse d'échange, à tel point que beaucoup de régulateurs cherchent un angle d'attaque pour venir essayer de réguler Hyperliquid, parce qu'on a toujours une problématique de Hyperliquid est pseudonyme, pas anonyme mais pseudonyme, et on a toujours le problème de quelle est ma contrepartie en face. Aujourd'hui, beaucoup d'institutionnels continuent à rester éloignés d'Hyperliquid puisque c'est difficile de garantir la contrepartie et de garantir toutes les contraintes de blanchiment, de financement du terrorisme ou autre. Il y a eu pas mal d'affaires dans ce cas-là. D'ailleurs, depuis une semaine, Hyperliquid a été restreint aux utilisateurs français par Hyperliquid. Maintenant, il faut utiliser un VPN pour pouvoir se connecter sur Hyperliquid depuis la France.
Alexandre Stachenko, là, en plus, si le régulateur cherche des angles d'attaque, il y a l'activité d'Hyperliquid en tant que telle. Et puis, s'il se lance sur les marchés de prédiction, parce qu'on sait que ça, on en parlera d'ailleurs en fin d'émission, mais ça devient un Far West qui en plus commence à poser problème aux régulateurs financiers.
Oui, et c'est pour ça. Alors, il y a eu simultanément d'ailleurs à quelques jours près l'Europe qui a ouvert une consultation pour son fameux MiCA 2. Ça avait été fait à dessein de exclure tout ce qui est finance décentralisée de MiCA 1 parce que les réflexions n'étaient pas assez matures pour encadrer ce secteur-là. Mais ça entre en friction de façon assez orthogonale avec le cadre financier puisque, comme on l'a dit, on n'a pas un intermédiaire, on n'a pas une contrepartie qu'on peut identifier avec un passeport, ce genre de choses. Donc je pense que les régulateurs n'ont pas fini de se gratter la tête sur ces sujets-là, avec un bémol quand même, c'est que il ne suffit pas d'invoquer finance décentralisée pour l'être réellement, de la même façon qu'il y a beaucoup de blockchains qui disent on est décentralisé et puis en fait il y a trois détenteurs de jetons et une fondation et une personne qui décide. Je pense qu'il y aura quelques projets parmi les plus solides qui eux seront capables de prouver une forme de décentralisation et donc de d'irresponsabilité d'une certaine façon puisqu'il n'y a pas une personne derrière. Ça a été touché du doigt d'ailleurs dans certains procès aux États-Unis par exemple sur tout ce qui était Mixer. La personne ne contrôle pas les flux, elle a créé un outil technologique qui permet à des gens de faire quelque chose, mais de la même façon, si vous avez blanchi de l'argent en espèces, vous n'allez pas inculper la personne qui a fait votre portefeuille en cuir, ça n'a pas de sens. Donc là, on est un peu dans ce même genre de débat-là, mais dans le monde numérique, et donc ça devient très très compliqué pour les régulateurs de se positionner.
Bon, on a vu que le Bitcoin était en recul, que l'or, ces derniers temps, ne fait plus rien non plus. Mais derrière tout ça, il y a un grand gagnant en ce moment, c'est le dollar, ça c'est évident. Mais dans le monde des cryptos, il y a le dollar tokenisé. Il y a les stablecoins qui n'arrêtent pas de gagner de la capitalisation et sans doute de la crédibilité en termes de nœuds d'infrastructure finalement.
Oui, parce que ça répond exactement au cas d'usage. Un dollar tokenisé, c'est le meilleur des deux mondes, en tout cas pour la plupart des gens. C'est-à-dire que c'est la puissance technologique des cryptos c'est 24 sur 24, 7 jours sur 7, partout dans le monde, pas besoin de compte bancaire, les frais sont très faibles. On peut continuer la liste très longtemps, évidemment, c'est fractionnable, on peut aller en dessous du centime, par exemple, donc c'est bête, mais on peut faire des choses comme ça. Et en même temps, ça reste, pour beaucoup de gens, fiable, parce qu'on se dit, bah, ça a la valeur du dollar, donc c'est moins volatile qu'un certain nombre d'autres crypto-monnaies. Et donc, pour beaucoup de gens qui regardent ça, ils se disent, mais si c'est le meilleur des deux mondes, pourquoi ne pas l'utiliser ? Et d'une certaine façon, on pourrait avoir un angle de lecture qui serait de dire, c'est bien la preuve que la crypto est en train de gagner, puisqu'elle montre qu'elle sait faire mieux. Il y a une part de vrai, je pense, là-dessus, parce qu'évidemment, c'est un réseau crypto, on se sert d'un jeton qui tourne sur une blockchain, etc., etc. Mais je pense que l'analyse la plus importante, c'est celle plutôt des rapports de force et de la géopolitique et du dollar, c'est-à-dire qu'au-delà de les stablecoins gagnent, c'est le dollar gagne, parce qu'évidemment, avec les stablecoins qui gagnent, comme ils sont quasiment tous en dollars, c'est de la dollarisation pour le monde, ouais. C'est la dollarisation qui contourne les contrôles de change, qui contourne les banques centrales, qui permet d'accéder à des gens qui ne sont pas bancarisés et qui maintenant vont avoir accès à du dollar numérique. Donc c'est ça qui se joue derrière. Et ce qui est un peu embêtant, c'est qu'évidemment, on ne peut pas s'empêcher à chaque fois qu'on parle de ce sujet-là de comparer à l'Europe. L'Europe répond par quoi ? Eh bien, en juin, nous aurons un vote sur le fameux euro numérique. Il y a le Parlement européen qui essaie d'avoir un mandat de négociation. Donc, on va s'orienter vers un euro numérique avec des limites de détention qui seraient autour de 3000 euros, etc., etc. Donc, on est en train de bureaucratiser l'émission d'un simili concurrent dont personne n'a compris à quoi il servait et qui, en plus, menace la stabilité financière parce que les banques s'en plaignent. Hein, ça peut générer une fuite des dépôts. On répond par ça face à la menace de la dollarisation massive du pays. Donc il y a vraiment un sujet sur l'absence de l'euro dans cette compétition monétaire mondiale.
Ouais, là encore, on est un petit peu à la traîne.
On est un petit peu à la traîne puisque ce qui est toujours dommage puisqu'on a toujours été une des premières places dans le monde à réguler la crypto,
oui,
et permettre de créer un écosystème régulé.
J'allais vous le dire,
les
oui,
règles du jeu sont là, clairement oui. identifiées. Ouais. Après, il faut aussi regarder l'adoption de nos institutionnels bancaires dans le monde crypto. Ouais. Elle a été un peu plus longue que leurs confrères américains. Mais aujourd'hui, tous les acteurs bancaires se lancent dans un projet crypto. D'ailleurs, ils n'appellent pas ça crypto, ils appellent ça digital asset. Tous ont un sujet stablecoin. Mm. Soit en propre, comme Société Générale Forge, avec son EuroCV, comme l'ensemble des banques qui ont rejoint le consortium Qivalis. Aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il y a 40 banques dans le consortium Qivalis.
Oui, c'est quand même
ça. C'était 12, puis 25, puis Qivalis. Et un certain nombre d'autres banques réfléchissent à lancer leur propre stablecoin en propre. Maintenant qu'on a un certain nombre de banques qui se lancent, qui réfléchissent justement à lancer leur propre stablecoin pour soutenir leur écosystème et qui aussi en même temps travaillent ça de pair avec la tokenisation d'actifs traditionnels, la tokenisation de fonds, etc., vont avoir besoin d'un stablecoin pour faire du settlement on-chain de leurs outils financiers. Et donc, je pense qu'il va y avoir une traction forte de ce côté-là puisqu'on n'a pas réussi dans le monde crypto à créer un acteur privé indépendant d'un État pour lancer un stablecoin comme peut l'être Circle côté américain. Donc aujourd'hui, je pense que l'avenir du stablecoin européen est dans les mains des banques en Europe, là où aux États-Unis, elle est dans les mains des acteurs comme Circle ou Tether ou Paxos qui sont des gros émetteurs.
Bon, on va passer par un peu de pratique là. Quelle est la bonne méthode pour détenir de la crypto ? Il y en a différentes. On peut acheter des bitcoins et les garder soi-même. On peut les acheter et puis les garder sur un exchange. On peut également acheter des ETF. On peut également acheter des actions de sociétés dont la trésorerie est en crypto. Quelle est en ce moment, là, à l'heure où on se parle, la meilleure solution pour investir vite et bien ? Et essayer de profiter un petit peu de ce bassin de liquidité de la crypto.
Alors déjà, il faut faire un panorama de ce qui est effectivement disponible entre les ETF, la crypto en direct, etc. Je pense qu'il n'y a pas de réponse univoque parce que la réponse dépend de la situation personnelle de chacun.
Profil d'investisseur, toujours.
Alors non seulement le profil d'investissement, ça c'est le cas pour tous les actifs, son horizon de détention, ses projets de vie, etc. Mais je pense qu'il y a aussi un élément très important dans les cryptos puisque c'est le seul actif, seule classe d'actifs, même si je réfute le fait que c'est une classe d'actifs, mais allons-y, c'est la seule classe d'actifs qu'on peut détenir en propre. Et ça rend la chose très très différente parce que ça ouvre des possibilités qu'on ne peut pas aller chercher sur les actifs traditionnels. Donc, par exemple, on l'a mentionné, l'autoconservation, très bien. C'est l'expérience crypto aboutie, on possède en propre, soi-même, on contrôle, pas de censure, etc. En revanche, il faut avoir en tête qu'on en prend la responsabilité. Donc, il n'y a pas de mot de passe oublié, il n'y a pas de « on peut récupérer si on a perdu la clé », etc. Donc, tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. Donc, en plus de l'angle investissement, profil de risque, etc., je pense qu'il y a aussi un angle sécurité. Est-ce que vous avez envie de vous éduquer au sujet de la sécurité, de comment on gère ses clés? Moi, je pense que tout le monde devrait au moins s'éduquer à ce principe-là, tester un peu, pour voir comment ça marche. Mais pour des gens qui veulent, par exemple, s'exposer à la tendance long terme et qui n'ont pas envie de prendre en main les sujets de sécurité, là, évidemment, pour moi, toute la partie trésorerie, Bitcoin, trésorerie compagnie, ça me semble un peu compliqué parce que si on va chercher du levier, des produits un peu plus sophistiqués, donc je sais pas si c'est là que je me dirigerai. La conservation en propre, on a dit pourquoi pas. Et évidemment, là, je vais prêcher pour ma chapelle, mais c'est pour ça que le produit de Bitstack est designé pour faire du DCA long terme. On achète un peu tout le temps et on a la possibilité de retirer si on veut, mais on peut le garder sur la plateforme si on préfère pas le faire. Donc évidemment, je parle d'un point de vue biaisé, mais je pense que c'est la façon mainstream, entre guillemets, la plus facile de s'exposer aux tendances long terme.
Louis Laszlo, vous
avez... Je pense que je rejoins ça. Aujourd'hui, ça va dépendre du profil de chaque investisseur. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se poser cette question chaque année. Si vous voulez, on peut prendre date pour l'année prochaine. Je pense qu'on aura encore deux nouvelles façons de s'exposer à la crypto en fonction
avec
des profils de risque. Ouais. Et si on regarde en 2017, on n'aurait pas eu forcément la même réponse sur les façons d'adopter. En 2021, encore pas la même chose. Et cette année, pas la même chose. Donc, ça va vraiment dépendre de chaque investisseur, de chaque profil de risque, du temps aussi de ce que disait Alexandre, du temps capable d'investir dans le projet. Est-ce que j'achète juste du Bitcoin parce que j'achète du Bitcoin, on m'a dit d'acheter du Bitcoin, ou est-ce que j'achète du Bitcoin parce que j'ai une conviction, parce que je m'y suis intéressé, parce que j'en prends le temps de m'intéresser à la sécurité de comment sécuriser mon portefeuille, comment le transmettre, comment gérer ça fiscalement, etc. Donc voilà, ça va vraiment dépendre de chaque classe d'actifs. La vraie réponse, c'est quel temps on est prêt à investir.
Bah oui.
Est-ce que je me fais accompagner ou pas? Et si je me fais accompagner d'un acteur dont c'est le métier, qui a une licence, qui est capable de nous accompagner, comme peut le faire un Bitstack, comme peut le faire un Meria, d'organisations régulées, que contrairement à ce qu'on peut trouver un peu random partout sur Internet. Donc voilà, je pense que ça va vraiment dépendre de chacun, de comment on appréhende aussi le sujet. Est-ce que c'est pour un temps long? Est-ce que c'est pour boursicoter et même limite faire du gambling et parier sur une explosion de prix à court terme? Donc ça va vraiment dépendre de chacun. Et je pense que vraiment, on peut prendre date et reposer cette question dans un an et on aura de nouveaux axes et de nouvelles réponses à apporter pour compléter.
Mais comme dans Tout pour investir et BFM Bourse, pourquoi croyez-vous qu'on reçoit des gens du métier, ceux qui ont vraiment les mains dans le cambouis? C'est peut-être la meilleure assurance de pouvoir investir en toute sécurité et en toute connaissance de cause. Autre chose, on parlait de la régulation, MiCA, et on est maintenant tout proche de gros changements.
On est à H-1 mois pour beaucoup d'acteurs. J'ai un article ce matin, il reste 50-60 acteurs qui sont sur l'arbitrage, on va dire, sur le dernier kilomètre.
Ouais.
Donc pour rappeler à tout le monde comment ça se passe, donc depuis décembre 2024, j'allais dire 2014-2024, c'est déjà loin, le régime PSAN n'est plus possible de s'enregistrer en tant que PSAN, de demander un agrément PSAN, MiCA est en vigueur, et donc aujourd'hui, l'ensemble des acteurs PSAN par le passé ont jusqu'à juillet 2026 pour récupérer le précieux sésame MiCA et convertir leur PSAN en MiCA. Mais c'est pas aussi simple que convertir, hein, c'est pas juste un dossier et on dit voilà, je veux convertir, et la marche est un peu plus haute, beaucoup plus haute pour certains. Et donc depuis 2024, l'ensemble des acteurs travaillent à passer justement cette marche, tant technique que réglementaire que autre, pour être justement un acteur, une institution financière régulée, conforme avec la réglementation européenne, et pouvoir aussi exporter cette réglementation européenne à l'Europe. Et donc aujourd'hui, il reste à peu près 50 acteurs qui ne sont toujours pas passés. Donc le process de dossier, on dépose son dossier, on est accompagné par des interlocuteurs côté AMF. Et quand on est prêt, l'AMF nous présente devant un collège. Donc on a un collège tous les 15 jours côté AMF, où l'AMF présente un certain nombre de dossiers pour valider ou pas l'agrément PICA, et il reste 2 à 3 collèges grand max d'ici le 1er juillet.
Ça va être le sprint.
Donc là, c'est le sprint final. Et ça va être... je pense qu'il va y avoir un peu de casse. Il y a déjà eu de la casse sur le chemin, des acteurs qui ont abandonné sur le chemin, des acteurs qui sont allés chercher leur licence dans d'autres pays, puisque le MiCA, c'est européen, et il y a un peu une concurrence entre les régulateurs. J'étais sur le site du régulateur estonien avant de venir. C'est limite venez chez nous, déposez votre dossier chez nous. Binance qui est allé chercher son MiCA en Grèce alors que la Grèce n'avait pas délivré un seul VASP, donc l'ancêtre de MiCA, et qui n'ont même pas toutes les équipes pour ça. Donc voilà, il y a aussi une espèce de petite concurrence entre les régulateurs et les États pour attirer des acteurs crypto. Donc voilà, très intéressant de voir ce qui va se passer là dans les prochaines semaines. On risque de voir beaucoup d'annonces.
Dernière chose, il nous reste une minute et je voulais absolument qu'on en parle. Polymarket, ça devient une sorte d'usine à délit d'initié. C'est effrayant.
Il y a quelques histoires là récemment. L'ingénieur de chez Google qui a tradé sur une info privilégiée. Un des soldats qui a fait partie de la capture de Maduro. Un procès d'ailleurs, je sais pas où vous en êtes, mais qui avait pareil tradé sur la capture de Maduro. Donc il essaye de dire qu'il n'était pas au courant quand il a pris ses positions, etc. Donc il y a pas mal de délits d'initié. Et ce qui revient à la réglementation américaine après le Clarity Act, on parle de Predict Act pour ça. Et en Europe, on a la même question de demander un KYC ou un KYB pour pouvoir faire accéder au marché prédictif. Voilà, c'est pas mal de choses qui vont être débattues dans les prochains mois pour pouvoir protéger justement ces questions de délits d'initié.
Mais il va falloir, parce que ça devient un enjeu, mais y compris du côté de Wall Street, où la plupart des analystes maintenant tranquillement pianotent et font leur consensus d'analystes avec Polymarket. Enfin, ça devient un peu fou.
On va parler de la famille Trump.
premièrement, mais d'une simple question de principe, moi, est-ce que je vais commencer à parier, à spéculer sur les résultats d'une boîte avec BetClick? Enfin, je sais pas. C'est bref, il y a beaucoup de questions à se poser et vous reviendrez nous en parler. Alexandre Stachenko, merci infiniment d'avoir été avec nous. Louis Laszlo de Meria, merci. Et puis on attaque BFM Bourse dans quelques secondes, bien sûr. Wall Street va ouvrir. BFM.